Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi plutôt crever que de pas finir ma banane.
C'était donc Philippe Catherine avec La Banane, un extrait de l'album Philippe Catherine. Et avant ça, on écoutait This Is The Kit avec Inside Outside, dernier single du groupe. Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube en ce mercredi 12 avril. Et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de mes invités. Antoine Mine, bienvenue pour nous parler du projet Tenir son chien en laisse, Tenir son chien en laisse. Et Mathilde Rowe pour nous parler du projet Conspiration, de spectacle qui se joue à partir de ce soir au Théâtre des Richeclaires dans le centre de Bruxelles. Donc bienvenue à tous les deux, merci de vous être levés et d'avoir bravé la pluie pour venir nous parler de ces deux spectacles qui ont l'air bien alléchants et qui ont, à mon sens, de nombreux points communs, au-delà du fait d'être joués en même temps au Théâtre des Richeclaires. Ça remet un peu en question un système dans lequel tout un chacun peut se trouver englué. Dans l'un, il est question de désobéissance, dans l'autre, il est question d'un système capitaliste qui nous entraîne dans certains comportements. Expliquez aux éditorices comment vous avez créé ces deux projets, quelles ont été vos démarches. Je pense que les deux ont surgi différemment, on va dire.
Bonjour, merci de nous avoir invités. Pour Conspiration, c'est en fait on s'est réunis autour du projet. Donc du coup, on a monté un collectif, mais qui était vraiment lié à ce projet-là. Nous, on était trois et on s'intéressait tous à l'économie, en fait. Donc voilà, on lisait des trucs, on regardait des docus, on s'est rendu compte de ça. Et puis, parallèlement, on aimait beaucoup le théâtre de l'absurde. Et du coup, a commencé à naître ce fameux projet Conspiration, où on a imaginé trois personnages qui créaient un monde, un système économique à partir de boules de plastique de couleur. Et voilà, donc là, tout a démarré comme ça, avec cette page blanche, finalement. Tout était possible pour eux. Et puis finalement, ces trois personnages vont faire que leur monde va s'écrouler. Nous, dans la méthode de travail, on s'est beaucoup inspiré de l'histoire de l'économie. Donc ça a été finalement une démarche un peu intellectuelle dans un premier temps, où on a vraiment déblayé l'histoire de l'économie, enfin comment l'histoire de l'économie nous est racontée. Et on s'est rendu compte qu'elle a été très longtemps racontée comme une science naturelle. Et du coup, on s'est dit que c'était totalement absurde déjà, qu'il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Et on a eu envie de personnifier un système. Bah, d'abord parce que c'est toujours agréable de détester un système ensemble. Et ça, c'est l'invitation avec Conspiration. Et puis en même temps, bah, je pense que tout un chacun peut se reconnaître dans les mécanismes. Et finalement, c'est un peu raconter qu'on devient le système dans lequel on vit malgré nous. Mais avant même de changer de modèle, l'idée c'était de regarder un peu notre histoire, de se regarder un peu dans les yeux et d'accepter aussi qu'on est dans un système capitaliste qui à un endroit est assez confortable. Et en ça, j'ai l'impression que le projet d'Antoine, c'est assez lié, parce que j'ai l'impression que c'est une réflexion qu'ils ont eue aussi.
Oui, mais bonjour. Tenir son chien en laisse, en fait, à la base, c'est une idée de François Regou, le metteur en scène, qui se trouvait trop obéissant. Donc il s'est dit, toute ma vie, j'ai été un mec bien, j'ai jamais eu de punition. Jamais eu d'heure de colle, j'ai jamais transgressé les règles. Qu'est-ce qui se passe si un jour je me mets à désobéir? Et du coup, il a proposé à trois amis à lui de le rejoindre dans cette expérience et d'essayer de désobéir. Donc le spectacle prend la forme d'un documentaire où on voit les quatre amis tenter des expériences de désobéissance dans la vie, dans la rue, dans les supermarchés. Et voilà.
Et du coup, effectivement, comme Mathilde le soulignait, il y a un lien dans le sens où le système capitaliste, vous dites, ça nous a été un peu imposé. On nous dit, il n'y a pas d'alternative à ce système. C'est comme ça, c'est un peu aussi, on nous met dans une situation où on ne désobéit plus non plus, où on n'arrive même plus à imaginer autre chose. Est-ce que c'est dans ce registre-là aussi que vous avez pu
Oui, Mathilde parler du confort, et je trouve qu'il y avait quelque chose aussi, quand j'ai rejoint le projet, parce que je suis arrivé plus tard, je me suis rendu compte que je m'étais installé un peu dans cette zone de confort où, quand j'étais adolescent, j'avais un peu tendance à tout remettre en question, et là, depuis quelques temps, je faisais plus trop attention aux règles, quoi. C'est comme si je m'étais assoupi et endormi, et que je m'étais laissé aller, quoi. Et avec le projet de désobéissance, justement, ça m'a permis de re-questionner et de me rendre compte un peu de mieux aussi situer dans quelle société on vit, et voilà.
Et justement, les deux, vous parlez d'une approche plus théorique, enfin par la lecture, par se laisser imprégner par l'histoire de l'économie d'un côté. Vous avez plutôt expérimenté. Vous avez expérimenté la désobéissance concrètement par des grands ou petits actes.
Oui, c'est ça. On a essayé des choses, par exemple, le vol dans les supermarchés. Où on est allé péter dans le métro aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait de l'affichage sauvage. Voilà. Je vais pas tout dire parce que sinon.
Bon, oui. Et comment ça se met en place après, du coup, de l'expérimentation ou de la lecture à un spectacle mis en scène, on va dire?
Pour notre part, dans la méthode de travail, en fait, on a regardé beaucoup de documentaires avec des économistes, vraiment les plus classiques. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on délirait un peu sur ce qu'on avait entendu, et donc on s'imaginait comment ce système-là pouvait être raconté chez Conspiration. Donc on a vraiment créé un monde avec toute une grammaire et toute une manière de faire. Donc notamment les trois personnages n'agissent que pour leur propre intérêt, par exemple. Donc ça, c'est une grande règle. Et c'est fait de manière totalement normale et sans culpabilité aucune. Un peu comme on nous raconte, finalement, le capitalisme. Et c'est un peu pour ça que le spectacle s'appelle Conspiration. C'est que c'est facile de dire que tout est une grande conspiration, mais finalement, quand on regarde dans le détail, des attitudes peuvent ressembler à celles des humains et même, enfin voilà, nous on dénonce personne et on ne dénonce même pas réellement un système, mais c'est juste qu'on a envie un peu de se regarder dans un miroir et toute la méthode de travail consiste à créer un miroir déformant, chose que l'art en général, je trouve, offre assez bien. Et donc voilà, nous, ça a été vraiment genre de transposer en fait toute cette matière intellectuelle, de la tordre, de la pousser encore plus à l'absurde, et par la personnification aussi, de mettre dans la bouche des personnages toute une histoire d'un système avec des dialogues et comment est-ce que, je sais pas, par exemple, la création de la monnaie s'est faite. S'il y avait, je sais pas, tout à coup, quelqu'un qui avait décidé que l'or était un étalon, en fait, nous, on l'a fait, donc on crée une scène où, voilà, on crée juste l'étalon dans leur monde. Et voilà, et en fait, on a avancé comme ça.
Et dans le spectacle Tenir son chien en laisse, c'est plutôt la question de l'expérimentation. Et donc, comment ça s'est choisi, ça, cette question de...
À la base, on a interviewé les comédiens et comédiennes pour questionner un peu leur rapport à l'obéissance, savoir ce qu'ils en pensaient. Et aussi avoir des premières idées de désobéissance, à quoi on obéit qui nous semble bizarre, et donc quel acte de désobéissance on peut mener pour répondre à ça. Et donc il y a toute une première partie où ce sont les interviews des comédiens et comédiennes, et après on a aussi rencontré des activistes qui nous ont donné des pistes sur des petites actions qu'on peut mener au quotidien. Et puis alors nous, pour le coup, on est allé dans la rue et on a fait pas mal de caméras embarquées ou cachées et on montre un peu sur scène. Des fois, il y a des séquences vidéo comme des témoins de réalité et autour, il y a le théâtre qui se fait avec les comédiens et comédiennes qui jouent à recréer le documentaire en fait, comme si le documentaire se créait sur l'instant. Voilà.
Et comment ça se passe parce que c'est la première fois que je reçois aussi des comédiens qui parlent de spectacles qui se jouent dans le même endroit. Et donc, est-ce qu'il y a un enrichissement mutuel qui se crée? Est-ce que vous vous regardez l'un l'autre pendant la création et
On se regarde à la pause déjeuner. On se regarde pas mal à la pause déjeuner. Sinon, non, on essaie d'être discrets les uns envers les autres parce que, évidemment, on partage un même bâtiment. Après, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe au Riche Clair, qui est vraiment la bienveillance d'une équipe de théâtre, d'un directeur qui fait confiance à des projets de jeunes créations. Et en ça, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une très bonne ambiance. Et voilà, on s'échange des mots, évidemment, on travaille, donc le but n'est pas de discuter pendant 3 heures, parce qu'on n'en a pas le temps. Mais c'est vrai que le peu de fois où on se croise, et en plus, le hasard fait qu'il y a évidemment un lien entre nos spectacles, c'est vraiment très, très agréable. Et puis maintenant, c'est la première. Donc moi, je joue dans le spectacle. Antoine, je pense pas que tu sois le soir au théâtre, mais voilà, il va y avoir aussi le partage des loges et tout ça, donc ça, on se réjouit aussi d'un peu plus se retrouver dans une petite intimité qu'on va partager de préparation de spectacle.
Et justement, ce lien entre les deux thématiques, comment vous le voyez?
Nous, dans le hall du théâtre, il y a eu une interview de votre équipe. Mmh. Et c'est vrai qu'en lisant l'interview, j'ai fait « Ah, c'est drôle, il y a plein de liens dans ce truc de rebattre un peu les cartes. » Et que je trouvais ça assez juste. Je me suis dit « Ah, Moi, je trouve ça bien que ces deux spectacles se jouent au même temps, au même endroit.
Ouais. Et c'est vrai que peut-être vraiment ce qui fait le lien, c'est la question de l'engagement, finalement. Nous, ça a été dans le travail, ça a été une question. Je pense que c'est ça aussi qui nous a réunis. On s'intéressait tous à l'économie pour des raisons différentes. Antoine Plaisant, qui joue dans le spectacle, et moi, on s'est rencontrés sur un projet qui s'appelle Lies, de la compagnie flamande Unterrundhut, qui est une espèce de grand casino qui refait par le biais du jeu, comme une espèce de poker avec des jetons, qui refait l'histoire des crises financières du début du siècle à 2008. Et on s'est rencontrés là-dessus, donc c'est vrai qu'on s'était déjà beaucoup intéressé à ça, mais vraiment ce qui fait qu'on discute et ce qui fait le début du projet, c'est un questionnement sur l'engagement. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est très fort. Enfin, j'ai l'impression que c'est le point commun de ces deux spectacles. Alors après, dans les projets, c'est totalement différent parce que nous, il y a vraiment le prisme de l'absurde, de l'humour, de créer un nouveau, enfin, de créer un monde et plutôt de parler du système dans lequel on est avant même de penser à changer de modèle ou être désobéissant. Et finalement, la suite du parcours, c'est avec l'autre projet, quoi.
Et vous, quand vous désobéissez, là vous avez évoqué les petites désobéissances, est-ce qu'il y a aussi dans votre rencontre, notamment avec des activistes, cette réflexion sur la désobéissance à plus large échelle rapport à un système plus complexe et qui nous oppresse aussi peut-être de manière globale?
Oui, bien sûr. On y a réfléchi. Après, le spectacle parle surtout de quatre individus plutôt bien dans les clous qui essaient de désobéir, mais en faisant le premier pas, quoi. Et donc, il y a quelque chose d'assez timide, et c'est ça qui est drôle aussi dans le documentaire, c'est que c'est une désobéissance à petite échelle, mais qui, pour les personnages qui sont les interprètes, c'est quelque chose qui leur semble énorme. Et c'est là où aussi, nous, je trouve, il y a un point commun, c'est l'absurde. Et il y a tout ce truc de... On donne une importance immense à un acte qui est juste aller voler un bonbon, par exemple. Mais en même temps, s'il n'y a pas ce premier truc, comment aller vers quelque chose de plus grand?
Et c'est quelque chose aussi que vous avez vécu aussi dans la façon d'appréhender le théâtre, enfin ce que vous faites, de pouvoir dépasser aussi petit à petit des règles et aller ailleurs, pas là où on vous attend ou là où on vous met.
Oui. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en travaillant sur l'obéissance, c'est de se rendre compte, dans notre métier aussi, dans notre manière de créer, on obéit vachement. On obéit à un metteur en scène, on obéit à une scénographie, à un espace. Et en prenant du coup la forme du documentaire et en montrant le documentaire se construire, il y avait une manière aussi de trahir un peu et dénoncer le théâtre et comment, enfin ça c'est dans le spectacle, à un moment la mise en scène et les interprètes vont se mettre à désobéir à ça. Il y a tout un moment où les interprètes vont se mettre à désobéir au metteur en scène qui leur demande justement un acte de désobéissance plus grand, plus énorme, et là va y avoir un retournement justement dans la situation où je vais pas en dire plus, mais voilà.
Ouais, mais c'est marrant. Enfin, ouais, ça me fait penser au fait que, voilà, en réfléchissant au système dans lequel on vit, nous, ce système capitaliste, on s'est aussi rendu compte avec notre collectif que les artistes, d'une manière générale, ont fonctionné vraiment de manière ultra libérale. Et c'est aussi une réflexion qu'on a eue par rapport au théâtre, au financement. Même bêtement, quand on est comédien, on passe des castings et donc on est finalement un peu porteur de, de son propre outil de travail, et donc on devient un peu un objet marchand. Et en fait, c'est assez vertigineux de se rendre compte de ça, de se rendre compte que, ouais, malgré nous, on est notre système, et à la fois, on est né du bon côté du globe. Et ce vertige, on essaie aussi de le raconter par l'humour dans Conspiration. Le fait que, là, on a fait un peu des visions test, les gens rigolent, parce qu'en fait, on est énormément à penser la même chose. Et je crois que ce vertige peut être renversé, parce que on est quand même beaucoup à penser que le système dans lequel on vit n'est pas le bon. Et ça, je pense que c'est important de, voilà, que le théâtre permette de rassembler aussi les gens sur ce qu'ils veulent pas ou ce qu'ils veulent changer dans le cas de l'autre spectacle.
Et c'est vrai que cette vision, enfin le fait qu'on soit nombreux effectivement à penser que les choses ne vont pas bien, mais pourtant on reste englué, on reste obéissant, on reste dans ce système. Et donc qu'est-ce qui peut nous pousser à passer la barrière, on va dire, et comme sur l'affiche, se mettre tout nu et...
Ben oui, comme dans le morceau de Philippe Catherine, quoi. Manger sa banane tout sur la plage. Oui. non, je sais pas, parce que on pourrait croire que c'est un travail de longue haleine. Tu vois, il faut se lever pour, je sais pas, par exemple aller manifester ou contester l'ordre. Comme ça peut être aussi une désobéissance passive, comme rester au lit. En fait, il y a plein de manières de désobéir, j'ai l'impression. Après, peut-être que si on ne le fait pas de manière commune, je ne sais pas où ça va nous mener, mais ouais. Il faut se mettre d'accord, je crois, sur une manière de désobéir.
Ouais, et puis c'est vrai que tu disais que les personnages du spectacle sont finalement des personnes lambda, enfin c'est pas des gens plus courageux que d'autres, enfin tout le monde peut s'y retrouver, et je crois que c'est important de raconter aussi les histoires de deux manières, quoi. Il y a le macro, il y a le système dans lequel on vit avec des grands engagements, et puis il y a le micro avec beaucoup plus le quotidien et ce qu'on peut faire en fait au quotidien pour par exemple désobéir, et c'est ça aussi qu'on essaie de raconter dans Conspiration. Ça raconte vraiment il y a tout le temps deux niveaux de compréhension. À la fois ça parle d'un système, à la fois ça parle de l'intime, du fait que parfois, on n'ose pas dire, écoute, non, je suis pas d'accord avec toi. Le non est pas si bien vu. Et on se lisse un peu. Et voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a un élément aussi dans votre dossier, vous dites une invitation à constater ensemble nager, qu'on nage dans la même piscine, c'est justement cette création d'un collectif. Et donc est-ce que justement vous, la désobéissance individuelle, est-ce qu'elle a un sens ou est-ce qu'elle doit devenir collective pour vous, enfin dans le spectacle, mais aussi à l'échelle plus si on parle, vous avez évoqué le fait qu'en tant que comédien, vous respectiez certaines règles aussi, c'est un milieu avec une certaine façon d'agir. Comment est-ce que ça doit être collectif, et justement le fait de créer des collectifs pour porter des projets spécifiques sans être dans une compagnie à long terme, est-ce que c'est important aussi pour vous de pouvoir vous rassembler justement pour le moment et pour le projet donné?
Oui. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Tu parlais de l'intime. C'est vrai que nous, on s'est aussi rendu compte en faisant ce projet que la désobéissance avait un rapport très intime. Quelque chose qui peut nous sembler injuste peut ne pas l'être pour quelqu'un qui est assis à côté, pour Mathilde, par exemple. Et je trouve que travailler en groupe permet justement de se re-questionner beaucoup, de dire tiens, moi j'ai trouvé ça injuste, Mathilde pas, pourquoi, quel est le juste milieu, et du coup comment on peut aussi essayer de construire un monde comme ça. Et j'ai l'impression que le théâtre sert à ça aussi, comme par exemple à créer des mondes, soit en proposer un autre, soit dénoncer celui dans lequel on est, par le biais de l'absurde ou du comique oui, mais voilà.
C'est vrai que c'est on a de la chance de faire un métier où on doit faire avec tous des cerveaux différents, donc ça c'est quand même une grande richesse, et oui, c'est évidemment, on parle d'engagement et tout ça, et voilà, Antoine et moi, on est artistes, et donc, d'une certaine manière, on est engagés malgré nous. Enfin, moi, en tout cas, je ressens ça aussi, parfois, dans mon entourage, des gens qui sont pas du tout du métier, qui vont me dire, ah oui, mais bon, voilà, toi, t'es artiste, t'es déjà dans un autre modèle et tout ça, et parfois, je leur dis, mais j'ai tellement l'impression de faire le même métier que le vôtre, en fait. Parce que tous les métiers sont devenus intermittents. Tout le monde peut être viré du jour au lendemain, et tout le monde est fragile. Et donc, quand on crée un projet où on est tous ensemble, c'est sûr que c'est extrêmement porteur. C'est vraiment super porteur. Parce que, voilà, comme tu dis, on n'a pas tous les mêmes avis. Et donc, c'est évidemment, ça questionne le vivre ensemble. Qui est le gros défi de l'humanité, et à la fois qui est, je pense, ce qui va nous sauver.
Et justement, ça permet, le théâtre, ça permet aussi d'être libre dans le fait d'imaginer d'autres possibles, ce qui n'est parfois pas le cas pour les gens qui ne sont pas justement dans le monde du spectacle et des arts. C'est plus facile d'être utopiste ou de penser d'autres mondes quand on est artiste. Est-ce que vous avez cette impression-là, justement, de pouvoir dire et exprimer ce que vous voulez
En tout cas, on a un canal, quoi, que ce soit, je sais pas, ça peut être... Là, on parle du théâtre, mais tous les arts possibles, que ce soit la musique, la peinture, etc. On a la chance de pouvoir mettre... nos propres lunettes qui font qu'on voit le monde d'une autre manière, et donc du coup on l'a en distance, et parfois c'est une chance plutôt que quand on a la tête dans des problèmes avec des métiers beaucoup plus concrets. Moi je trouve que c'est une chance d'avoir ces lunettes.
Et aussi un terrain de jeu, je crois. On a quand même un plateau où on peut construire des décors et s'exprimer à l'intérieur. Oui. Enfin, il y a aussi le côté où on peut essayer un monde avant de le mettre en place à l'extérieur. Enfin, je sais pas, il y a un truc où on peut se permettre de rater aussi, je crois. En montant sur scène, en écrivant un spectacle utopiste ou dystopique. Enfin, il y a quelque chose où on peut se permettre de se planter parce qu'on sait que c'est faux Et donc, d'une certaine manière, on a une excuse pour oser des choses et se moquer de nous aussi. Enfin, de se mettre en distance toujours avec nos lunettes de...
Ouais, c'est ça, c'est s'extraire, ouais, s'extraire du monde. Enfin, finalement, aller au cinéma, voilà, regarder un film pendant 1h40, c'est ça, c'est des échappatoires au monde. Et à la fois, ça nous permet aussi de le questionner ou de mieux vivre avec. Ou, voilà, ça, c'est peut-être la définition de l'art, juste, mais c'est, ouais, je pense que c'est quand même une chance.
Et est-ce que vous avez l'impression, justement, pas spécialement à partir de vos deux spectacles, mais que l'art ou que le théâtre peut influencer justement des activistes ou des mouvements sociaux et que renverser, là vous disiez que vous aviez lu beaucoup d'économistes, que vous avez rencontré des activistes, est-ce que vous avez l'impression que ça peut aller dans l'autre sens? Est-ce que le chemin se fait aussi dans l'autre sens? Est-ce que...
Bien sûr, bien sûr.
Vous avez...
Moi, j'en suis convaincue. C'est évident. Bah, d'abord, on a tous été plus jeunes, à l'âge de... Enfin, je sais pas, moi, je me souviens des premières pièces de théâtre ou expositions que j'allais voir quand j'avais 12-13 ans. C'est des choses qui m'ont extrêmement marqué. Rien que ça, évidemment que ça peut permettre, dans la vie des spectateurs, de changer. En tout cas, c'est le rêve de tout metteur en scène, auteur, artiste, de faire bouger le spectateur, ça c'est sûr. Et je pense que, ouais, pour, enfin, moi je sais pas, je me replonge quand j'étais plus jeune, ça m'a, ouais, ça c'est bouleversant parfois de voir des films, de voir des pièces de théâtre et sur des thématiques qui tout à coup, ouais, vous marquent et donc on y pense. Et j'imagine que les spectateurs qui vont aller voir le spectacle Tenir son chien en laisse, c'est évident qu'après ils vont repenser à, voilà, aux désobéissances qu'ils peuvent faire ou qu'ils voudraient faire. Enfin,
oui, ça peut mettre aussi dans une certaine énergie des fois. Enfin, quand, en tant que spectateur, quand je vais au théâtre, des fois je sors et je fais, oh, ça y est, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire la fête, de re-questionner le monde, d'agir. Voilà, je crois que j'espère que ce sera ça à la sortie de notre spectacle. Et aussi, oui, enfin, comme nous, on crée avec, comme disait Mathilde, des lunettes qui nous permettent de regarder le monde. Le théâtre, je crois que permet aussi aux spectateurs et la spectatrice de prendre du recul, des fois, sur ce qu'on vit et de mieux regarder depuis le gradin, quoi.
Et est-ce que vous prévoyez aussi de faire des séances? Il me semble qu'un des deux spectacles prévoit de faire des séances plus justement avec les écoles, avec des séances scolaires.
Nous, oui, en tout cas, on a des scolaires. D'ailleurs, c'était très drôle de faire un dossier pédagogique sur la désobéissance, parce qu'à l'école, on obéit quand même beaucoup. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer.
Nous, on a aussi des scolaires et on a hâte et un peu peur aussi. oui, voilà. Alors oui, il y a des scolaires qui viennent voir, mais c'est vrai que je sais pas du tout quelle va être la réaction parce que évidemment l'absurde, voilà, c'est déjà des codes assez spéciaux. Je me réjouis en même temps. Je me réjouis de jouer ça devant des spectateurs, spectatrices plus jeunes.
Et vous prévoyez un moment d'échange particulier après avec eux? Vous évoquez la question du dossier pédagogique. Comment constitue justement un dossier pédagogique? Est-ce que les riches clercs, justement, le théâtre vous aide à concevoir ça? Ou est-ce que vous partez en...
Là, si je me souviens bien, oui, ils nous ont donné un exemple de dossier pédagogique sur lequel on s'est appuyé pour construire le nôtre. Et là, pour le coup, Du coup, on va parler un peu de la désobéissance avec les élèves. Et l'idée, c'est de faire un peu des exercices du style qu'est-ce qui vous semble. À quoi est-ce que vous obéissez et qui vous semble être. Enfin, pas normal, je ne trouve pas le mot. Bref, et du coup, comment répondre à ça? Comment désobéir à un ordre, à quelque chose qu'on nous impose, mais de manière ludique et créative et. Enfin, en s'amusant, sans qu'il y ait de choses graves qui arrivent, quoi.
Tu verras, hein, ça se trouve.
Oui, ouais.
Ça va déborder.
Ils vont sortir des riches clercs et envahir le centre-ville.
Bah, si ça se fait dans la joie et. Enfin, ça peut être une joyeuse fête.
Tout à fait. Et c'est un de spectacle. Pour plutôt adolescents, enfin à partir de l'adolescence, je veux dire.
Oui, nous, je pense que c'est à partir de 13-14 ans.
Nous, c'est pareil.
Oui, donc ce sera des grands ados qui viendront, ouais. Des classes de fin de secondaire, quoi.
C'est ça, jeunes adultes, quoi.
Des jeunes adultes. Merci beaucoup Mathilde et Antoine. Je pense qu'il y a des places à remporter. Le théâtre offre 3x2 places pour chacun des spectacles pour la représentation de ce vendredi. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail à concours à radiopanique.org. Avec mention souhaite de conspiration, souhaite laisser tenir son chien en laisse. Je ne sais pas si avant de clôturer, vous voulez rajouter l'une ou l'autre chose par rapport.
Peut-être rappeler les interprètes et l'équipe. Donc pour conspiration, il y a Chloé Struvet, Antoine Rowe et donc moi-même qui sommes sur le plateau. Et on a reçu. Beaucoup d'aide de plein d'artistes, notamment Ludovic Barthes, qui nous a aidés en œil extérieur à la mise en scène avec beaucoup de bienveillance, qui lui-même fait partie d'une compagnie qui s'appelle Clinique Orgasme Society. Et puis voilà, je pense à Signe Cravate qui a créé le son du spectacle, à Fanny Estève qui nous a assistés et à Laurent Serment qui nous a aussi. Éclairé par des très bons conseils en costume. Voilà, ça c'est pour l'équipe.
Merci.
Et alors pour nous, c'est Maya, à l'interprétation, c'est Maya De Waal, Jérôme Villain, Lucille Vignol et François Regout. François Regout qui fait aussi la mise en scène. Émile Stengelé à la création sonore. Mathieu Libion à l'éclairage. Et moi à l'assistana.
Eh bien, merci à tout le monde. Et donc, les deux spectacles se jouent à partir de ce soir jusqu'au 28 avril. Et donc, c'est les mercredis à 19h et jeudi et vendredi à partir de 20h30, c'est ça, hein?
C'est ça.
Voilà. Et donc, c'est au Théâtre des Riches Clercs. Et je ne sais plus l'adresse.
24 rue des Riches Clercs.
Voilà. Et en préparant l'émission, j'avais demandé s'il y avait un morceau ou l'autre que vous vouliez écouter. Donc il y avait La Banane de Catherine en début d'émission. Et là, vous avez proposé qu'on écoute Heroes de David Bowie. Et donc on va se quitter avec ça. Merci encore.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et Mathilde. Et on écoute Heroes.